Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. En marge de la guerre à Gaza, le conflit entre Tel Aviv et Téhéran est entré dans une logique d'affrontement particulièrement dangereuse. Au bombardement israélien contre une annexe du consulat iranien de Damas, faisant plusieurs morts chez les gardiens de la Révolution début avril, ont succédé la riposte iranienne sur Israël, marquée par une salve de 300 drones et missiles, et la riposte à l'attaque de Tel Aviv. La question qui se pose maintenant est de savoir si les choses vont en rester là ou si au contraire les hostilités vont se durcir. La réponse réside sans doute dans l'évolution de la guerre en cours à Gaza. C'est la première fois en avril que l'Iran attaquait de manière directe Israël. Qu'est-ce que cela révèle du pouvoir interne en Iran et de sa nouvelle stratégie? Est-ce la fin de la patience stratégique qui prévalait depuis plusieurs années? Un palier a-t-il été franchi dans le face-à-face irano-israélien? Et dans quelle mesure la fin de la guerre de l'ombre rebat-elle les cartes dans la région? Regard avec nos invités, Azadeh Kian, sociologue, professeur à l'Université de Paris, directrice du Centre d'enseignement de documentation de recherche pour les études féministes. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche sur le monde iranien. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc la première fois que la République islamique vise directement le territoire israélien. On va s'arrêter sur le modus operandi, en particulier le fait que Téhéran ait annoncé 3 jours avant ou 2 jours avant son intention d'attaquer Israël, annonce faite à Tel Aviv ainsi qu'à Washington. Donc, un, l'attaque israélienne ne pouvait rester sans réponse de la part de Téhéran. Et deux, Téhéran voulait montrer que les choses étaient sous contrôle. Est-ce qu'on peut parler de fin de la patience des Pasdaran qui, depuis plusieurs années, encaissent sans répliquer les coups portés par Tel Aviv? On peut remarquer aussi que l'attaque a été limitée dans sa puissance. Téhéran avait probablement les moyens de riposter plus fort, ne l'a pas fait. Les raisons, à quoi assiste-t-on, Bernard Ourcade?
Je crois qu'on assiste là à une réponse qui n'est pas militaire, mais qui est diplomatique et politique à l'attaque israélienne et l'opposition israélienne à l'Iran. En effet, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire militaire, que l'on a vu une puissance assez moyenne, l'Iran, même si elle est émergente, être capable d'envoyer plus de 300 engins, missiles balistiques, missiles de croisière et drones, sur une toute petite cible, l'Israël, à 1500 km. Des militaires que j'ai interrogés m'ont dit « ça ne s'est jamais fait, c'est tout à fait nouveau ».
Donc ça montre la force et la puissance.
Militairement, ils ont une compétence très importante qui, entre parenthèses, peut laisser supposer que s'ils voulaient faire une bombe atomique, ils n'auraient pas tellement de problèmes techniques pour le faire. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais en montrant la force, mais sans l'utiliser, parce qu'en prévenant les Américains et les Israéliens 48 heures avant, ça a permis aux plus grandes armées américaines, israéliennes, anglaises et françaises de détruire effectivement tous les drones, ce qui était le but de l'Iran, de montrer une force sans provoquer des dégâts susceptibles de créer une riposte, parce que l'Iran sait très bien, et c'est là que les pragmatistes en Iran, gardiens de la Révolution, on y reviendra certainement par rapport aux idéologues purs, disent si les États-Unis nous attaquent, ça sera le sort de l'Irak, nous serons écrasés et le régime islamique avec. Donc soyons sérieux. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette riposte iranienne, cette attaque iranienne, est une attaque diplomatique, politique importante, et non pas une attaque militaire.
Alors c'est tout à fait intéressant. Azadeh Kian, est-ce que cela, d'une certaine manière, modifie le rapport de force, cette démonstration iranienne?
Oui, moi je pense que cette démonstration de force, effectivement, de la part des gardiens de la Révolution, en envoyant 300 missiles et aussi drones, était un acte pour montrer à la fois leur force militaire, mais également à l'attention d'Israël, mais en même temps de leurs proxys ou des groupes de soutien dans la région, afin de dire, surtout au Hamas palestinien, au Hezbollah libanais, aussi de Yémen, que le moment venu est si nécessaire, le régime islamique d'Iran a déjà un arsenal militaire assez important. Ils ont, alors les gardiens de la Révolution ont aussi précisé n'avoir pas envoyé leurs missiles supersoniques.
Pas les plus performants.
Les plus performants. En fait, ils ont vidé un petit peu, si vous voulez, leur cave pour montrer effectivement leur puissance, comme ça a été dit, tout en d'ailleurs avertissant ou informant l'ensemble des voisins de l'Iran, dont d'ailleurs aussi la Jordanie, pour dire qu'ils vont faire ces attaques-là, afin d'éviter autant que possible des dégâts. Et effectivement, parce qu'ils seront vaincus, je veux dire, dans l'hypothèse d'une réelle guerre contre Israël et les États-Unis. Mais en même temps, c'était à mon sens, aussi montrer ses muscles à la société civile iranienne, n'oublions pas, très contestataire. Et on voit que depuis 2022, depuis septembre 2022, lorsque Jina Mahsa Amini a été assassinée, il y a eu ce grand mouvement et qui continue. Donc, en réalité, c'est un régime tout entier qui est mis en cause par sa société civil. Plus récemment, le chanteur-rappeur iranien Toumash Salehi, qui est très populaire en Iran, du fait de ses chansons très contestataires, qui a été condamné à mort, etc. Ça a créé à nouveau beaucoup de mobilisations protestataires tant en Iran qu'au sein de la diaspora. Tout ça. Donc, en fait, les gardiens de la révolution veulent montrer par tous les moyens leur force tant à l'échelle régionale que interne.
Alors, les gardiens de la révolution, c'est une chose. J'aimerais qu'on aborde aussi la question de, bon, on a compris, renforcement du clan conservateur en Iran. La question qui se pose, c'est de savoir un petit peu pourquoi. Et en préparant cette émission, j'ai découvert ce front Païdari, qui est un front religieux qui infiltre les rangs des gardiens de la révolution, les rangs aussi, je parle sous votre contrôle, du Parlement, du gouvernement. De quoi est-il question aujourd'hui en Iran, Bernard Rocade ?
Alors, ce front des réactionnaires, disons, des réactionnaires au sens strict du terme, Païdari, c'est lui qui est debout, qui tient, on dit Stadegi, qui tient debout, qui ne bouge pas. Et certains disent qu'il faut effectivement en Iran pour sauver le régime, parce que ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas la destruction d'Israël ou la puissance régionale ou l'expansionnisme iranien, c'est de défendre la République islamique. C'est ça l'enjeu. Après 45 ans, ils se rendent compte qu'il y a vraiment des problèmes. Atadeh Kian le soulignait à l'instant, ce qui s'est passé pour Pour de Mahsa Amini n'est que l'embryon d'un phénomène qui est extrêmement général. Ils savent que la société iranienne leur est opposée et même une dictature ne peut pas se permettre d'avoir une opposition forte et systématique. Donc c'est sous la pression qu'ils sont contraints de faire quelque chose. Et donc certains disent, pour mettre les femmes avec leur tchador pour contrôler la société, rien de tel que de bouger, d'être répressif. Un certain nombre de gens réalistes, dont un certain nombre de gens des gardiens de la révolution. Les Païdari, les réactionnaires en quelque sorte, sont à la fois des gardiens de la révolution, mais aussi des gens du côté des clergés, largement. Et donc cette différence fait que certains disent qu'il faut la répression, d'autres disent que ce n'est pas réaliste, la répression ne suffit pas. Il faut ajouter quelque chose. Et c'est là qu'à mon avis, l'intervention des gardiens de la révolution, qui ont été créés après, dans le cadre de la guerre Irak-Iran, sont les enfants de la guerre Irak-Iran, et qui reprit en quelque sorte le discours de Khomeini, qui disait, quand certains voulaient libérer Jérusalem, il dit oui, ok, libérer Jérusalem, et ça passe par Kerbala. C'est-à-dire, ça passe par la guerre Irak-Iran, la frontière entre l'Irak et l'Iran. Donc, d'accord, nous sommes d'accord pour soutenir les Palestiniens. Nous sommes d'accord pour soutenir les proxys du Hezbollah, du Hamas ou des Houthis, etc. Mais l'essentiel, c'est la défense de la République islamique. Et donc, il y a au sein du cadre conservateur deux tendances, effectivement. Ça ne veut pas dire que l'une sont gentilles, l'autre sont méchants. Mmh. Il y a deux tendances qui sont, d'une, les réalistes, qui essaient de mettre du nationalisme pour essayer d'avoir un peu de consensus populaire, en disant, effectivement, nous sommes impopulaires, mais si je défends la patrie, peut-être je vais grappiller 5 ou 10% d'opinion favorable. Et certains jouent sur cela, dans le cadre du combat intérieur, pour prendre le pouvoir en Iran sur les conservateurs les plus radicaux. C'est une faille. On sait que le poisson pourrit par la tête. C'est peut-être de l'intérieur qu'on saura voir l'évolution des choses en Iran.
Alors justement, est-ce qu'on assiste à une sorte de... Est-ce qu'on peut dresser un parallèle, Azadeh Kian, entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe en Israël? Je pense à ce renforcement des clans conservateurs. On dit aussi que Raisi est aussi impopulaire que Netanyahou en Israël.
Absolument, absolument, sinon plus, parce que Raisi est aussi accusé, à juste titre, par tout le monde, y compris par son camp conservateur, d'être le président le moins capable, avec un gouvernement totalement incapable dans l'histoire du régime islamique d'Iran. D'ailleurs, remarquez, je ne dis plus la République islamique, il n'y a plus de République, c'est le régime islamique, il faut se rendre à l'évidence. Il y a quelques milliers de personnes, tout au plus, qui vraiment dirigent ce régime, profite de ce régime, et ce sont des gens qui ont à la fois accès aux revenus pétroliers et gaziers, mais également justement à l'arsenal militaire et nucléaire de l'Iran. Raison pour laquelle, comme Bernard Urquhart l'a dit, ils ont aussi très peur de cette contestation populaire qui prend de plus en plus d'ampleur du fait aussi d'une crise économique, d'une cherté de vie. Mais alors, incroyable, hein, si je vous dis que même les classes moyennes, plus ou moins supérieures, ne peuvent plus faire face à cette crise et à cette cherté de vie, à cette inflation. Et ils savent pertinemment, les gens au pouvoir le savent aussi, que les contestations vont continuer. Et raison pour laquelle ils ne veulent pas d'affrontement direct ni avec Israël ni avec les États-Unis. Pourquoi ? D'ailleurs, les nouvelles séries de sanctions qu'ont décidé contre le pétrole iranien, ça sera un coup très important contre le régime islamique et contre la vente du pétrole qui reste quand même le revenu, le seul revenu, si vous voulez, de ce régime. Néanmoins, la population, dans sa grande majorité, rejette, et ça c'est clair, à la fois ce que Bernard appelle les rationnels ou les légitimistes, c'est-à-dire bon, les réformistes, que les conservateurs modérés, que les ultras. Ça, ça a été clair et net dans tous les mouvements sociaux depuis au moins 2010, décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. L'un des slogans les plus pertinents, c'était on va en finir avec ce régime, que vous soyez réformiste, conservateur, ultra, Khamenei ou Raisi. Et c'est raison pour laquelle je reviens sur le cas de rappeur Toumaj Salehi. Il est si populaire en Iran. Pourquoi ? Parce que dans ses chansons, il reflète ces revendications-là. Maintenant, vous avez tout à fait raison, parce que l'impopularité grandissante du régime islamique, d'une part, et du gouvernement de Raïsi en particulier, nous permet effectivement de faire un parallèle avec le gouvernement de Netanyahou. Les deux ultras souhaitent une situation de tension et de conflit afin de se maintenir au pouvoir, effectivement. Parce que s'il n'y a pas de conflit, eh bien, quelle sera la raison d'être, si vous voulez, de ce gouvernement au pouvoir en Israël et en Iran, et de ce régime. Donc, raison pour laquelle le régime islamique monte ses dents à la fois contre Israël, États-Unis, etc., et l'Europe d'ailleurs. Il ne faut pas oublier les 4 otages français en Iran. Ça aussi, c'est une façon d'intimider la France. Et ma foi, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on se laisse faire hein, en Europe hein, aussi. Et également montrer ses dents face à cette contestation de plus en plus grande de la société civile iranienne. À l'occasion du 1er mai, il y a eu des manifestations en Iran, manifestations des ouvriers, mais également beaucoup de femmes retraitées, dont le slogan c'était « Laissez tomber le voile, faites quelque chose pour nous ». Donc tout ça, vous voyez, les Iraniens et Iraniens sont vraiment très alertes, très conscientes de ce qui se passe et de ces politiques de création, provocation, de tension par le pouvoir islamique afin de se maintenir au pouvoir. Or, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que Bernard, tu appelles nationalisme iranien, ça existe, on le sait, chez des persans, mais certainement pas. Les Iraniens ne pensent absolument pas que les gardiens de la révolution en Iran représentent ce nationalisme iranien. Non. Et d'ailleurs, le nationalisme iranien a été beaucoup critiqué lors du mouvement de Jina Mahsa Amini par des minorités ethniques et religieuses qui sont ni perses ni chiites.
Mais ils sont iraniens.
Alors, mais iraniens, donc c'est le patriotisme, c'est pas le nationalisme. Le nationalisme iranien est un nationalisme perse.
D'accord.
Donc, voilà, entendons-nous là-dessus quand même.
Comment la population iranienne a-t-elle réagi à la démonstration de force de Téhéran sur Israël ?
Avec beaucoup d'inquiétudes, craignant qu'il y ait une réponse massive des Américains et de tout le monde. Et il ne s'est pas passé. Alors, je suis d'accord avec Azadeh quand elle montre la puissance de la contestation, le fait que les Iraniens, à 80-90%, peu importe, une immense majorité, veulent le changement de régime. C'est une chose claire. Mais la question... Je ne suis pas iranien, je ne suis pas acteur politique de l'Iran. Mon job, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans les rapports de force qui font que ça bouge, ça ne bouge pas. Bon, actuellement, on connaît la protestation populaire. C'est un moyen de pression sur le gouvernement, sur le système iranien, quel que soit ce gouvernement. Il ne peut pas continuer 107 ans comme ça. La crise économique est colossale. Aucun gouvernement ne peut résister. Et donc, les gens en place aujourd'hui au pouvoir en Iran, la petite minorité qui tient le régime, sait très bien que ça ne peut pas durer comme ça. Et la guerre de Palestine ajoute une tension nouvelle qui n'était pas prévue au programme, parce que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas l'Iran qui manipule les Palestiniens, fait qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Et c'est là que le patriotisme ou le nationalisme, c'est un facteur qui joue. Et je vois, moi, actuellement, regardant les choses de l'extérieur, je me trompe peut-être, une différence de plus en plus forte à l'intérieur du magma de ces amis de 45 ans qui se détestent, qui sont au pouvoir en Iran, des divisions profondes. Des divisions entre, vous le disiez, les Païdari les plus radicaux, les plus réactionnaires, et d'autres qui disent, pour s'en sortir, il ne faut pas être réactionnaire, il faut être proactif. D'où la démonstration militaire, pour dire, je suis capable. Les gardiens de la révolution qui ne sont pas aimés en Iran, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais ils disent, regardez, quand le général Soleimani a été assassiné, lors des obsèques, il y a eu un mouvement qui dépassait le cadre des simples soutiens de la République islamique. Il y avait un réflexe patriotique, on ne tue pas un général. Il ne faut pas amplifier ce mouvement-là. Mais des amis israéliens avec qui j'ai discuté de cette question-là me disaient, on regarde le phénomène Soleimani avec beaucoup d'intérêt. Parce qu'on se dit, il y a peut-être là un moyen, hélas, disait l'Israélien, hélas pour la République islamique de prolonger son système. En ajoutant quelques éléments de patriotisme aux difficultés. Je ne fais que regarder des hypothèses, je ne suis pas sûr du résultat, et c'est encore aux Iraniens à décider. Simplement, je dis, il y a là peut-être un changement, et les événements du 14 octobre, l'attaque, la démonstration, la parade militaire iranienne est un élément important dans cette affirmation d'un autre facteur que dans la politique iranienne d'aujourd'hui, qui est la révolution de 79, mais aussi la guerre Irak-Iran, qui a beaucoup forgé de réseaux et de pouvoir dans l'Iran actuel.
Azadekian.
Non, juste à propos de Qassem Soleimani, je pense que c'était une personnalité unique parmi quand même les généraux des gardiens de la révolution, dans le sens où il a fait attention à ne pas prendre position pour aucune des factions au pouvoir. Ça, il ne faut pas oublier. Et on a fait pression, je me rappelle, sur Soleimani, par exemple, déjà, de présenter sa candidature lors d'une présidentielle. Il a dit non. Prendre position pour l'une des factions contre les réformistes, il a dit non. Moi, je suis un général des gardien de la révolution, etc. Et en même temps, Qassem Soleimani a gagné en popularité en Iran lorsque il s'est battu contre Daesh, c'est-à-dire lorsque il est allé en Irak. Et n'oublions pas que l'Iran était quand même le premier pays à s'être opposé militairement contre Daesh en Irak, et puis par la suite en Syrie. Donc le discours de dire Soleimani a empêché Daesh d'entrer en Iran, c'était un discours qui effectivement lui a valu pas mal de popularité à l'époque en Iran, mais Soleimani, à mon sens, c'était une personnalité à l'époque unique. D'ailleurs, il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur Soleimani, et ces choses-là, c'est-à-dire ce qu'il a fait en Syrie, etc., sont en train maintenant d'être dévoilées, ce qui risque effectivement d'amoindrir sa popularité d'antan. D'ailleurs, il est originaire de Kerman, et on sait que ces gens-là sont surtout très populaires dans leur ville natale, pas nécessairement dans l'ensemble du pays. Et aussi, est-ce que Qassem Soleimani, par exemple, aurait pris la décision de réprimer le mouvement de Jina Mahsa Amini en 2022 ou non? Ce sont des questions qui se posent parce qu'il n'est plus là pour répondre à ces questions. Donc, de toute façon, c'était une personnalité unique, et je pense que les Israéliens ont tort de penser que n'importe quel général des gardiens de la révolution peut devenir aussi populaire que Qassem Soleimani. Qassem Soleimani a une histoire très spécifique dans le contexte du régime islamique d'Iran. Voilà. Donc, par exemple, Zahedi qui a été tué, général Zahedi était le général le plus gradé de l'armée al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la révolution à Damas. Que s'est-il passé? Rien du tout. Tout le monde s'en fiche, au niveau de la population. Donc voilà.
Bernard Orcat, très rapidement, il reste 30 secondes. J'avais une question à vous poser, mais je démarrerai la deuxième partie de l'émission avec.
Je crois justement que certains nombres de gardiens de la révolution, qui sont un groupe hétérogène, veulent récupérer cet héritage Soleimani, à tort ou à raison.
À tort.
Mais peu importe, ils veulent le faire. Moi, je regarde les faits. Je constate que dans les révolutions, en ayant obtenu du guide de faire une attaque sans dégâts, c'est une décision politique très importante. Et donc, les gardiens de la révolution voulaient récupérer l'image idyllique, mythique et fausse peut-être, mais réelle, de Soleimani.
Mais il faut regarder les réseaux sociaux. Tout le monde s'est moqué d'eux. C'est-à-dire qu'ils veulent faire peut-être quelque chose, je ne nie pas. Mais moi aussi, je me fonde sur des faits. Et je vois que toute une grande partie de la société iranienne, à travers des réseaux sociaux et autrement,
se sont moqués des
attaques des gardiens de la révolution contre Israël. Voilà.
On vous retrouve, Azadeh Kian, avec Bernard Orcat d'Après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Israël-Iran, assiste-t-on à la fin de la patience stratégique de Téhéran? Nous retrouvons nos invités Azadeh Kian, sociologue et professeur à l'Université de Paris, Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche sur le monde iranien. Est-ce que l'on assiste à un moment important pour l'Iran? On a évoqué la question palestinienne, les négociations sur le nucléaire iranien, les Américains en sont sortis, donc il n'y a plus de pont finalement de discussion entre l'Iran et l'Occident, sauf des intensifications de mesures économiques à l'encontre de l'Iran, d'où la situation économique que vous évoquiez précédemment. Et la question qui se pose, c'est aussi de savoir que fait la Chine dans tout cela. Mais voilà, est-ce qu'on assiste à un moment où l'Iran peut précisément retrouver une place ou en tout cas un rôle dans la région sur fond de questions palestiniennes? Je ne sais pas qui souhaite... Bernard Ourcade.
Ils veulent actuellement saisir cette opportunité qui était accidentelle comme un moyen de sauver la République islamique. Et donc, parmi les conservateurs qui sont au pouvoir, gardiens de la Révolution, clergé, tout ce panier de crabes qui se détestent actuellement et sont en plein conflit, ils se disputent pour savoir comment sauver la République islamique. Et de ce point de vue-là, la guerre de Palestine et l'attaque iranienne massive, exceptionnelle, sont des éléments factuels. Je m'interroge sur le fait que pourquoi le guide de la République islamique, qui n'est pas d'accord avec les modérés, c'est le moins qu'on puisse se dire, ou même une évolution du régime, qui défend le régime à fond, le guide de la République islamique a accepté cela, de faire une attaque avec 300 ou 400 drones et des missiles, et sans efficacité militaire et une efficacité politique. Parce qu'effectivement, c'est la panique à Téhéran. Parmi les régimes. Ils savent très bien, Azadeh l'avait répété et à juste titre, la société iranienne est au bout du rouleau, en a assez dans toutes les catégories sociales, y compris ceux qui ont soutenu le régime. Ils ne peuvent pas durer comme cela. Ils cherchent des moyens de s'en sortir. C'est pour ça qu'un certain nombre de gardiens de la révolution, ce sont les élites entre guillemets de la République islamique, disent qu'il faut trouver une solution. Et leur solution à eux, c'est la fermeté, la dureté, l'armement, la répression s'il le faut, mais aussi la défense de la patrie. Et ils espèrent, de ce point de vue-là, avoir une légitimité. Je ne dis pas qu'ils vont réussir. Je dis qu'à mon sens, il y a là, à l'intérieur du système politique iranien, un rapport de force qui se met en place, qu'on voit également concernant le hijab et les discussions qu'il y a sur la loi sur le hijab, certains qui la veulent, qui ne la veulent pas. Ça montre des conflits intérieurs sur une question culturellement importante, mais qui montre des divisions. Je me demande, moi, s'il n'y a pas là, dans ces rivalités, une bombe atomique, c'est lorsque le noyau explose. Actuellement, le noyau de la République islamique est en train de bouger beaucoup. Il peut exploser avec la question du hijab, avec la question de la Palestine. Et tout ceci sont des signes qui pourraient effectivement fragiliser la République islamique de l'intérieur. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis voilà ce qui se passe.
Alors, on l'a dit dans la première partie de l'émission, l'Iran, avant d'attaquer directement Israël, avait prévenu à la fois Israël et à la fois les États-Unis. Panique à Téhéran, Azadeh Kian, est-ce qu'on peut craindre le pire dans l'affrontement entre l'Iran et Israël?
Ah, bien sûr, mais je pense qu'il n'y aura pas d'affrontement. Parce que les Israéliens non plus n'ont pas intérêt à cet affrontement contre l'Iran. L'Iran, quand même, c'est un grand pays avec énormément d'influence. Je parle du régime islamique. Influence dans la région. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas être à la fois à Gaza et en Cisjordanie en même temps se battre contre le Hezbollah libanais, contre le Russie de Yémen, contre l'Iran, contre la Syrie, etc. etc. Effectivement, les Iraniens le savent. Moi, je pense que effectivement, ces attaques iraniennes contre Israël et la riposte israélienne ont été très mesurées, justement afin de se montrer les dents, les muscles, tout en évitant des conflits ouverts. D'autant que les États-Unis, si jamais il y a un conflit entre Iran et Israël, les États-Unis ne peuvent pas ne pas intervenir en faveur d'Israël, bien évidemment. Et ça, ils ne veulent absolument pas, ni avec Biden, ni avec Trump, si jamais il est élu. Tout ça, on le sait. Donc, en fait, le problème, c'est qui sont les victimes de ces conflits qui, jusque-là, étaient au niveau des rhétoriques hostiles entre l'Iran et Israël, surtout, avec quelques scientifiques iraniens qui étaient assassinés par Israël. Les Iraniens faisaient plus ou moins pareil en Syrie ou ailleurs, contre les Israéliens, en Argentine, contre les Juifs, etc. Mais cette fois-ci, ils se sont montrés les dents de façon plus, disons, ouverte. En revanche, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un conflit réellement militaire, je ne le pense pas. En ce qui concerne le nucléaire iranien, parce que puisque vous avez commencé par ça. Il ne faut pas oublier que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique est attendu à Téhéran. Donc, en fait, les Iraniens soufflent le chaud et le froid en même temps. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution laissent entendre qu'ils ont la capacité de fabriquer une bombe atomique s'ils le souhaitent. Mais en même temps, on invite M. Grossi d'aller en Iran et de voir qu'on n'est pas en train de le faire. Donc, effectivement, le régime islamique a toujours joué, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, sur ces discours ambigus. D'une part, la force, d'autre part, la négociation. Et la communauté internationale, l'Agence internationale d'énergie atomique, l'ONU, tout ça, l'Europe, ont marché, ont dansé, si vous voulez, sur cette musique-là. Mais maintenant, on arrive à un moment où on constate que le monde se montre fatigué. L'ONU se montre fatigué. L'ONU, c'est important quand même, commence à, de façon systématique, condamner les exactions commises par le régime islamique d'Iran contre les droits humains. C'est pratiquement quotidien. Et on constate aussi que les voix se lèvent aussi à l'échelle plus ou moins internationale, y compris parmi les pays qui, jusque-là, étaient suffisamment silencieux. Donc, je pense que on voit le régime est en train d'être fragilisé et s'est fragilisé. Par exemple, regardez les contestations au sein même du clergé de Rome contre, par exemple, cette politique de réprimer les femmes mal voilées ou pas voilées, ou la répression, par exemple, la condamnation à mort de Toumaï Sali, etc. etc. Bon, les exemples ne manquent pas. Donc, parmi le clergé, parmi aussi les rangs d'autres classes politiques, enfin, de façon plus générale, ce qui me laisse dire que c'est un régime qui est en train de s'effondrer de l'intérieur, d'imploser de l'intérieur. Et comme dit quelqu'un qui était très proche de Khamenei, M. Nassiri, qui est aujourd'hui dans l'opposition, on n'a même pas besoin de renverser ce régime. Ce régime est en train de se faire renverser avec ses politiques entreprises par les réels, véritables décideurs. Et la question à se poser, c'est de savoir qui dirige ce pays. Est-ce que c'est vraiment Khamenei, le guide, ou est-ce que ce sont des gardiens de la révolution qui...
Appuyés par le Front Païdari.
Absolument. Et d'autres, et le clergé ultra-conservateur. Parce que Khamenei aussi, à son tour, souffle le chaud et le froid. Donc, il n'a pas une position très arrêtée non plus, parce qu'il doit aussi répondre aux critiques, ma foi, très nombreuses des clercs du haut rang qui sont contre lui et qui disent « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi ?» Parce que l'islam est en cause en Iran. L'islam politique a mis en cause l'islam. C'est ça qui se passe en Iran. Et le clergé, conservateur ou modéré, peu importe, eh bien, se fait beaucoup de soucis par rapport à ça en disant « On a existé pendant 1400 ans et vous, vous arrivez et au bout de 40 ans, vous êtes en train d'anéantir l'islam et c'est ce que vous avez fait. » Et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que l'ensemble des enquêtes à l'échelle iranienne montre que la religiosité a énormément baissé parmi la population, en particulier parmi les jeunes.
Bernard Orcade.
Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Azadeh pour dire qu'effectivement, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est à l'intérieur du système que les tensions sont extrêmement fortes. Alors, ce n'est pas clergé quand on regarde la révolution. Les divisions sont internes dans tout le système politique actuellement en place. Mais actuellement, parmi les forces qui sont là, les mollahs ont été au pouvoir pendant 45 ans. Ils ont fait leur temps, ils sont un peu usés et ils ne contrôlent pas aussi bien que les gardiens de la révolution, la technologie, l'économie, l'armée, la police, etc. Les gardiens de la révolution ont montré leur efficacité technique pour être de bons dictateurs efficaces. Donc, ce que je vois dans le changement actuel, c'est effectivement des risques d'implosion interne, mais aussi un changement important vis-à-vis d'Israël. C'est que les missiles sont partis de l'Iran et non pas de Syrie ou d'ailleurs. C'est-à-dire que désormais, l'Iran ne laisse pas tomber le Hezbollah, les Houthis ou le Hamas, mais ils ont été échaudés par l'attaque du Hamas qui n'était pas sous leur contrôle. Ils ont été trahis par le Hamas, en quelque sorte, qui est allé trop vite dans l'opération. Ils veulent sauvegarder le Hezbollah avec sa menace militaire. Si le Hezbollah attaque, le Hezbollah sera détruit au bout d'un certain temps et les Iraniens n'auront plus ce fusil ou ce canon pointé sur Israël. Il faut donc conserver la dissuasion du Hezbollah. Même chose pour les Houthis. Et l'Iran se replie sur son territoire. Ce que je disais tout à l'heure, l'Iran n'abandonne pas les proxys qu'ils ont à l'extérieur. Bien évidemment, ils les gardent. Le char reviendrait demain en Iran, il garderait ses proxys. Mais c'est de dire la priorité, c'est le territoire national. Et de ce point de vue-là, ce que je disais tout à l'heure, il me semble qu'un certain nombre de gens en Iran essaient de grappiller le patriotisme iranien pour essayer de faire survivre la République islamique. Ils n'ont pas, à mon avis, réussir. Parce qu'ils ouvrent une boîte de Pandore et le patriotisme iranien est beaucoup plus fort que ces tentatives de récupération.
Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Parce qu'en fait, avant d'attaquer Israël, le ministre iranien des Affaires étrangères est allé à Damas. Il n'a pas été reçu à l'aéroport par des dirigeants syriens, par le ministre par exemple, syrien des affaires étrangères, ni rien du tout. Et visiblement, moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est que, eh bien, visiblement, Bachar al-Assad leur a dit que s'ils voulaient attaquer Israël, riposter contre l'attaque de leur consulat qui s'est passé sur le sol syrien, il ne fallait pas compter sur Damas pour le faire. Ça, c'est un message très important de la part du gouvernement syrien, de Bachar. Et donc, les Russes, attention, hein, qui sont très omniprésents, comme vous le savez, contre à l'Iran. Donc c'est ça qui a fait que les attaques qu'on connaît contre Israël ont eu lieu depuis le territoire iranien.
Alors, à propos justement de cette attaque sur Israël, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, il y a eu une coopération sans précédent entre l'Occident et les puissances arabes de la région. La Jordanie qui est intervenue, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la France aussi. Est-ce que ça voulait dire, Bernard Roquette, qu'Israël ne pouvait pas se défendre seul?
J'étais surpris de voir que très peu de commentateurs militaires à la télévision discutaient de la partie technique. Or, envoyer 300 ou 400 missiles à 1500 km atteignant leur cible, ce n'est pas une chose anodine du point de vue de la technique militaire. C'est la première fois que ça s'est passé. Et un autre élément important, c'est que ça a coûté une fortune. Un drone, ça vaut 20 000 à 25 000 euros. Un missile Exocet, c'est 2 millions d'euros. Autrement dit, avoir contré l'attaque iranienne l'autre jour, ça a coûté des centaines de millions d'euros. On ne peut pas, en France ou en Angleterre, se payer cela tous les jours. Et Israël a bien montré qu'il ne pouvait survivre, son dôme de fer n'a fonctionné que parce que les Américains, les Français, les Anglais étaient là. Certes, tous les missiles, tous les drones ont été détruits, mais ça a montré la faiblesse d'Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde dit, c'est une date importante, tout le monde dit, bon, arrêtons, il faut être un peu sérieux. L'Iran va parier l'Israël la carte, arrêtons ces discours. Sunnites, chiites, c'est pas ça le problème. Il y a un Moyen-Orient actuellement extrêmement divisé entre les deux Moyen-Orient, comme on dit. Ceux qui sont pro-occidentaux, qui va des Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Jordanie, Égypte, et un Moyen-Orient différent qui va de l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban,
la
Turquie éventuellement, qui sont en déshérence, ravagés par des guerres bien souvent. Et il faut respecter ces deux pays. Comment faire en sorte que ces deux ensembles, ces deux Moyen-Orient, coexistent à l'avenir? Est-ce que c'est la République islamique qui sera capable de prendre une initiative? On peut toujours en rêver, mais on est loin du compte. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Certainement pas. Il faut que ni l'un ni l'autre ne l'emporte. Et ça, c'est le jeu peut-être des Français, peut-être des Européens, des Américains, on peut rêver, de jouer un bon rôle d'intermédiaire pour qu'effectivement, le Moyen-Orient trouve une certaine stabilité. Mais il y a du boulot.
Alors, il y a une certaine, oui, effectivement, perte de crédibilité de l'Occident sur à la fois le dossier iranien et puis plus généralement le Moyen-Orient. On a évoqué la situation économique compliquée. Est-ce que c'est le fruit des sanctions contre l'Iran? Quel est le rôle aujourd'hui de la Russie et de la Chine, Azadeh Khan, et est-ce que l'Iran a raison de mettre tous ses œufs dans le panier russo-chinois?
La réponse est non, mais en même temps, on sait que les Chinois achètent le pétrole iranien et que selon les autorités iraniennes et les chiffres officiels, l'Iran a vendu 1 500 000 barils de pétrole par jour. Ça, c'est les chiffres de l'OPEC, mais on sait que de façon officieuse aussi, ils vendent beaucoup de barils de pétrole. Donc, on estime à plus de 2 millions, voire 2 200 000 barils de pétrole par jour vendus essentiellement à la Chine. Après, les Chinois, vous le savez, hein, les revendent, y compris à l'Europe et ailleurs. Puis d'autres pays qui l'achètent aussi en sous-main. Donc la Chine est importante pour ça. Les Russes, ce n'est pas du tout au plan économique, mais au plan militaire, au plan de soutien. C'est un soutien réciproque. Hein. Il ne faut pas oublier que les Iraniens ont donné beaucoup de drones aux Russes lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de fabriquer les drones iraniens en Russie, c'est-à-dire que c'est la technologie iranienne, parce que c'est des drones kamikazes, donc qui ne coûtent pas cher, justement. Et ce sont ces drones-là aussi qui ont été envoyés à Israël. Donc, d'ailleurs, pour revenir sur ces attaques contre Israël, on estime à 1 milliard de dollars l'ensemble des coûts de missiles et de drones iraniens contre Israël. Or, si vous regardez le volume de corruption du régime islamique, ça s'élève à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, au regard de la corruption, c'était rien du tout. Hein. C'est dépenser 1 milliard pour faire peur à tout le monde dans la région. Donc, effectivement, le soutien de la Russie est très important. Le soutien, je veux dire, diplomatique, politique, voire militaire, s'il le faut, de la Russie pour l'Iran est très important. Enfin, le régime islamique. Et la Chine, c'est autrement. C'est-à-dire que la Chine, c'est un partenaire surtout économique, mais qui, en même temps, achète le pétrole saoudien, etc. Donc, ce que les Chinois souhaitent, c'est la stabilité de la région. Hein, on le sait. Ce que les Russes souhaitent, c'est le contraire. Donc là-dessus, bon, le régime islamique essaye de faire avec les deux, mais en tout cas, ensemble, il y a par exemple l'organisation de Shanghai. Ensemble, il y a d'autres groupes qui ont été créés qui renforcent en fait le poids de la Chine et de la Russie dans la région. Contre qui ? Contre l'hégémonie américaine. Et donc, c'est ça qui est aussi très important pour le régime islamique d'Iran, mais également pour la Turquie d'Erdogan, même si la Turquie est membre de l'OTAN, etc. C'est-à-dire qu'on est face à des jeux des puissances moyennes et puissances régionales, mais à plusieurs titres. Et donc, le régime islamique essaye, mais de jouer, enfin d'être un acteur important dans ce jeu, mais au regard de l'ensemble des observateurs, le régime islamique d'Iran a tort de regarder uniquement vers l'Est et se mettre en opposition par rapport à l'Ouest.
Qu'est-ce que justement l'Ouest peut avoir à proposer, Bernard Orcade ? Est-ce qu'il faut eh bien, remettre un accord sur la table, renégocier quelque chose ?
Il est évident que la société iranienne ne regarde pas vers l'Est. Le régime islamique regarde vers l'Est parce que, question de droits de l'homme, les Chinois sont très regardants, les Russes non plus, hein, mais les Iraniens ne regardent évidemment vers l'Ouest. Il faut trouver un certain réalisme parce que le fait que l'Iran ait de bonnes relations avec la Russie ou la Chine, c'est une chose normale, un équilibre entre les pouvoirs. Le gouvernement iranien s'est intégré dans les BRICS, dans cette association des pays émergents, sous la domination actuellement de la Russie et de la Chine, mais ça peut changer. Il y a un mouvement où l'Arabie saoudite se trouve également à l'intérieur. Autrement dit, c'est actuellement la Russie et la Chine, peut-être ou l'Inde, qui seront mieux placés pour faire que l'Arabie saoudite et l'Iran et Israël calment le jeu, qu'on trouve une solution, plutôt que les Français, les Allemands ou les Anglais ou les Américains, qui n'ont cessé de sanctionner l'Iran de façon un peu bébête, en disant « les mollahs sont méchants, les gardiens de la Révolution sont très méchants », c'est vrai, mais ce n'est pas une analyse politique, ça. Donc, on voit actuellement que les rapports de force ont changé. Et côté occidental, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des déboires, mais regardons le peuple iranien, les Iraniens, mais les Saoudiens, les Émiratis ou les gens de Koweït ou d'Égypte regardent plus vers Paris ou vers Washington que vers Pékin ou que vers Moscou.
Alors, vous l'avez dit, Azadeh Kian, il nous reste une minute et demie avant la fin de cette émission. Le régime s'effondre, ce que cherchent les Américains depuis 40 ans.
L'effondrement de l'intérieur, oui, mais ça dépendait aussi des périodes. Moi, je pense que, parce que l'effondrement du régime peut avoir aussi un coût élevé pour la société iranienne et d'ailleurs pour l'intégrité territoriale de l'Iran, parce que il suffit de regarder où se trouve l'Iran, qui sont les voisins de l'Iran, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, espérons que cet effondrement se fera avec l'intégrité territoriale de l'Iran et surtout avec une alternative politique, démocratique, viable et fiable, ce qui n'est pas encore le cas en Iran. Et c'est ça, en fait, le risque. L'effondrement de régime sans une alternative politique, démocratique qui serait acceptable par l'ensemble des Iraniens et Iraniennes, ça peut entraîner un risque aussi d'effondrement de l'Iran. Et donc, d'ailleurs, vous savez, la société iranienne est vraiment une société très sage. Les Iraniens sont patriotiques et non pas nationalistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de mouvements allant contre l'intégrité territoriale de l'Iran, même si l'Iran a beaucoup de minorités ethniques et religieuses, parce que ces minorités-là aussi tiennent à l'Iran.
Merci.
Je suis entièrement d'accord avec Azadeh pour une fois encore.
Merci Azadeh Kian. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'Université de Paris, directrice du Centre d'enseignement de documentation de recherche pour les études féministes. Et merci aussi à Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre de recherche sur le monde iranien. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.